dans notre Église, dans l'Église, nous pouvons dire de façon un peu caricaturale que nous trouvons d'une part ceux qui sont plus sensibles à la prière et à la parole, et ceux qui, d'autre part, sont plus orientés vers l'action, vers le témoignage par les actes, vers le soutien aux plus petits. Et cette parabole que nous connaissons bien est souvent invoquée par ces derniers comme justification biblique de leur sensibilité. Et ils n'ont pas tort. Cette parabole est l'un des textes les plus importants qui traite de la nécessité pour l'Église d'être présente auprès des pauvretés du monde. Ce texte nous rappelle que l'Église n'est en vérité témoin de Jésus-Christ que si elle est présente aux côtés de ceux qui ont faim, des pauvres, des étrangers, des malades et des prisonniers. Mais si nous sommes tous d'accord avec ce sens général, ce texte nous pose quand même des questions redoutables. J'en retiens deux. La première, c'est cette vision d'un Dieu juge, impitoyable, qui sélectionne les hommes et fait le partage entre ceux qui vont recevoir le royaume et ceux qui seront maudits et qui auront droit au feu éternel. Toute la question du jugement de Dieu est posée ici. Cela ne nous met pas très très à l'aise. Un tribunal avec Dieu comme juge, cela ne passe pas. La seconde question difficile posée par ce texte est celle des critères de ce jugement. Les églises de la Réforme depuis 4 siècles, mais l'Église catholique aujourd'hui aussi, posent comme fondement de leur compréhension du salut la grâce. La grâce telle que Paul la développe dans ses épîtres, c'est-à-dire si nous sommes sauvés, si nous recevons la vie, c'est par la personne de Jésus-Christ, par sa croix et sa résurrection. Ainsi, le salut ne vient pas de nous, il nous est offert gratuitement. Et dans cette parabole, que trouvons-nous? Les élus sont ceux qui accueillent les étrangers, visitent les malades et les prisonniers, et nourrit les affamés. Nous voici au cœur d'une bonne théologie des œuvres. On gagne son paradis, on gagne sa vie en faisant de bonnes actions. Deux belles questions. Pour essayer de les dénouer ensemble ce matin, je vous propose d'abord de revoir un petit peu le contexte de notre parabole. Jésus, à ce moment-là, dans l'évangile de Matthieu, est à Jérusalem. Il sait qu'il va bientôt être arrêté. L'heure n'est donc plus aux allusions, aux signes ambivalents ou aux demi-mesures. D'ailleurs, autour de lui, les camps se sont radicalisés. Il y a ceux qui prônent une foi centrée sur la prière et le respect des règles de pureté, et ceux pour qui seuls les actes comptent. Nous avons entendu tout à l'heure dans la lettre de Jacques « À quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres ?» Il y a aussi les Esséniens tournés vers la fin des temps, les Sadducéens qui ne croient qu'au présent. Il y a les adeptes d'un Dieu bon et miséricordieux. Il y a ceux qui annoncent un jugement radical. Bref, il y en a à toutes les sauces. Et aujourd'hui encore, parmi nous chrétiens, nous retrouvons de semblables camps. La piété ou les actes, la vie après la mort ou la vie présente, le pardon ou le jugement. Alors Jésus, à eux tous et à nous aussi en même temps, offre une description imagée et symbolique de la fin des temps. Il annonce que tout le monde passera au jugement devant lui, le Christ, les chrétiens, comme les non-chrétiens. Chaque être humain découvrira à ce moment-là la vérité sur lui. Il saura ce qui, dans sa vie, a eu du poids et du sens. Il saura si notre vie a porté du fruit. Alors là, vous voyez bien le jugement dont il est question ressemble moins à un procès qu'à une relecture de l'existence. Et Jésus nous donne la grille de cette lecture. Notre vie aura porté du fruit lorsqu'elle aura été tournée vers ceux que Jésus appelle les plus petits de mes frères. Qui sont ces petits? Le judaïsme en dressait la liste. Les malades, les prisonniers, les orphelins, les veuves, les étrangers, les pauvres. Et Jésus reprend cette énumération. Aujourd'hui, comme hier, le petit, c'est la personne dépendante, qui ne peut s'en sortir seule, parce que les contraintes qui pèsent sur elle sont insupportables, ou parce qu'elle n'a pas en elle les forces suffisantes. Le petit, ce peut être l'étranger, la personne âgée, isolée ou malade, endettée ou sans travail, dépressive ou incapable de s'insérer socialement. Ce peut être aussi l'un d'entre nous à un moment donné de notre existence. Et ce sont quelques-uns de ces petits que Jésus exhorte à aider. Parce que notre vie n'a de sens qu'avec et pour les autres. Parce que la fraternité humaine n'englobe pas seulement mon clan ou ceux qui y pensent comme moi, mais l'ensemble de l'humanité. Parce qu'en agissant ainsi, c'est le Christ lui-même que je sers. Celui qui se met au service d'un de ses petits accepte de se laisser façonner par le Christ, comme le dit le cantique, comme un souffle fragile. Et il agit en faveur du Christ lui-même. Jésus, vous l'avez vu dans notre parabole, s'identifie à ce petit. Chaque fois que vous avez servi l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus met ainsi en lumière la portée de nos actes. Chacun d'entre eux, chacun d'entre nous fait avancer ou stoppe le royaume de Dieu. Pour Jésus, ce qui restera de mon moi et de ma vie sont ces instants où je me suis tournée vers les plus petits. Alors je le crois, la seule condamnation que nous avons à craindre n'est pas une punition éternelle, mais la découverte que nous sommes toujours passés à côté de ces petits, à servir et à aimer, et qu'ainsi nous avons vécu en vain. Pour aider ses interlocuteurs à comprendre, Jésus emploie cette image du feu éternel. Parfois on lit dans des Bibles de la géhenne. Et ce feu éternel, ce n'est pas l'enfer, comme on le pense souvent. Il s'agit de la décharge publique qu'il y avait à Jérusalem. Et le feu permanent qu'il y avait dans cette décharge permettait de réduire la masse des objets jetés à cet endroit. Alors, être jeté à la géhenne, c'est savoir que sa vie n'a pas été plus utile aux yeux de Dieu qu'un objet que l'on abandonne parce qu'il ne sert à rien. Jésus ne nous dit pas de craindre l'enfer, mais de prendre notre vie au sérieux. Car s'il est dit que nous sommes pardonnés et aimés, ça c'est une certitude, il n'en est pas certain pour autant que notre vie soit fructueuse. Alors si nous revenons maintenant à la fin de notre parabole des boucs et des brebis, Il y a quelque chose qui est assez surprenant. C'est la réaction des hommes des deux côtés quand ils entendent la sentence. Les justes disent « Mais Seigneur, quand est-ce que nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, de te voir assoiffé, de te donner à boire ?» Et les rejetés ont exactement la même question. « Quand nous est-il arrivé de ne pas te donner à boire alors que tu étais assoiffé ?» Et cet étonnement va bien dans le sens de tout ce que nous venons de dire. Le jugement de Dieu dévoile les choses cachées, met de la lumière sur toute notre vie. Ce terme de lumière est très employé dans le Nouveau Testament à propos de Dieu. La foi nous invite à passer des ténèbres à la lumière dans notre cœur, dans nos actions, dans nos relations. Le pardon de Dieu opère en nous la réconciliation entre nos idées et nos actions, notre pensée et nos paroles. Le pardon de Dieu éclaire notre vie et lui donne tout son sens. En tant que chrétiens, orthodoxes, catholiques ou protestants, nous sommes appelés à devenir transparents, afin que puisse se lire en nous, dans nos paroles et nos actions, la lumière, l'amour et la présence de Dieu. Et cette transparence éclaire la façon dont nous devons servir les autres. Il ne s'agit pas d'une charité laborieuse que nous nous efforcerions de faire jour après jour pour avoir fait notre dose de bonnes actions dans la journée et soulager notre conscience. Mais il s'agit de cette attention au plus petit de notre monde, comme une respiration, comme une évidence au regard de tout ce que nous avons déjà reçu de la part de Dieu. Que nos actions, donc, ne soient rien d'autre que la conséquence immédiate de l'amour de Dieu pour nous. Mais cette fameuse évidence n'est pas forcément évidente pour tous. Et je pense ce matin aux membres de notre service d'entraide, qui par manque de bonne volonté, de nouvelles personnes qui s'engagent et sont prêtes à faire des choses, semblent s'essouffler. Et aujourd'hui, ce sont nos frères et sœurs catholiques qui se tournent vers nous et nous proposent d'avancer ensemble au service des plus petits. Notre service aux autres peut s'essouffler parfois. Et puis, une main peut se tendre pour nous rappeler la nécessité de son importance pour nos vies de chrétiens. En général, quand nous sommes sur le point d'abandonner, Dieu ne nous laisse pas ainsi. Et d'autres nous proposent de nous relever. Le texte aux Thessaloniciens que Norbert a lu tout à l'heure insiste bien, frère aimé de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous a choisi. Et j'ajouterai, pour son service, il nous a choisis, nous les chrétiens, appartenant au Christ. Et là, nous sommes tous d'accord. Chers frères et sœurs, nous sommes partis de cette réflexion avec des dilemmes, des questions embarrassantes. La foi ou les œuvres, la grâce ou le jugement, l'éternité ou le présent. Jésus, lui, n'oppose pas ces pôles. Au contraire, il les met en relation, en tension. Ainsi, la foi appelle au service du petit. Et ce service me rapproche du Christ. Ainsi, le pardon de Dieu, y compris pour les impardonnables, renforce et clarifie mes actes. Il ne s'agit plus de servir pour avoir une récompense, mais parce que le service est une évidence si je reçois cet amour de Dieu dans toute sa profondeur. Et enfin, la façon dont Jésus évoque la vie éternelle et le jugement, ne nous fait pas redouter l'enfer, mais nous aide à prendre au sérieux toute notre vie et nos engagements. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus-Christ.